Moi, j'ai trouvé vraiment intéressant de vous écouter. On vit des choses qui sont semblables quand même. Donc, on se questionne de façon assez identique. Mais de vous écouter, on entend bien cette question de la crise qui met en évidence les failles du système, les difficultés. Au fond, c'est un miroir qui revient à l'école en lui disant il y a bien des choses qui ne fonctionnent pas, et l'occasion en fait de pouvoir réfléchir, avoir vraiment une attitude réflexive comme celle qu'on demande à nos étudiants pour pouvoir reprendre une école qui est peut-être pas exactement la même, hein, mais c'est bien dans les craintes que soulevait Raoul tout à l'heure d'une école qui pourrait redevenir exactement la même. Et donc on se dit ça vaut vraiment la peine de changer. Alors, en fait, on se pose la question, pour moi, en vous écoutant, ça rejoint aussi des questionnements sur école, quel modèle? Est-ce que s'il y a une diversité des élèves, des familles, des compétences des enseignants, en même temps, on propose un seul modèle unique d'une école avec un seul programme, un seul objectif, mais au fond, on ne sait pas très bien c'est quoi l'objectif et pourquoi on veut ces enseignements-là plutôt que d'autres. On ne met plus rien en cause. Et quand on voit effectivement que des enfants s'ennuient à l'école, ou que des enfants qui sont en confinement trouvent maintenant qu'ils ont plus mal au ventre et qu'ils vont mieux et qu'ils font leur travail beaucoup plus vite et rapidement. Voilà. Mais aussi que d'autres n'ont pas accès ou ne comprennent pas ou ne sont pas soutenus de la même façon. Et donc, on a vraiment aussi une diversité à prendre en compte. Et cette école unique qui prétend, parce qu'elle est dans un même lieu, ça c'est aussi une intervention de Raoul en disant un même lieu, dans un même temps, à l'école, il faut être tous ensemble sous le regard du maître pour pouvoir apprendre. On voit bien que ce n'est pas vrai. Et on sait qu'il y a des modèles différents. Et au fond, l'opportunité, c'est de se dire, mais quelle école veut-on? Pour quelle société? Puisqu'on prépare quand même les élèves à une certaine société, vers quoi veut-on aller? Est-ce qu'on doit faire simplement plus de technologies? Parce que les technologies, ben on voit que ça a manqué, qu'on n'a pas été préparé, etc. Est-ce que c'est vraiment ça la vraie question et le vrai problème? Ou bien est-ce que c'est effectivement cette capacité à s'adapter? Ça, c'était aussi encore une question qui revenait tout au début. Avoir des capacités et puis d'initiatives, des compétences pour les enseignants. C'est aussi Patrick qui rappelait cette question-là en disant, est-ce qu'on laisse l'autonomie aux enseignants pour qu'ils restent intelligents dans leur manière d'appréhender l'école et la différence de leurs élèves? Bon, peut-être que des enseignants qui ne savent plus pourquoi ils enseignent et vers quoi on va, vers quel idéal, quel est l'idéal de l'école, ben finalement, ils restent des techniciens ou ils acceptent d'être des gardiens d'enfants. Parce qu'au fond, si on veut que tous les enfants retournent à l'école, ben c'est trop compliqué autrement. C'est peut-être parce que on se dit que l'école, au fond, c'est le lieu où doivent être les enfants pendant que leurs parents travaillent. C'est pour ça que les enseignants ici en Suisse se sont fâchés en disant, mais on ne veut pas simplement que les enfants puissent retourner à l'école parce que les parents travaillent. On n'est pas une garderie. Et pourtant, dans l'histoire de l'école est bien une forme de garderie où on met les enfants pour que les parents puissent travailler, qu'ils ne soient pas en train de traîner dans les rues. Donc ça, c'est un des problèmes du désordre social qui a géré aussi à penser, si on pense une école différemment, on doit bien penser que ces enfants qui ne seraient pas sous le regard d'un adulte inquiètent. Ils ont toujours inquiété, et surtout les enfants qui sont dans des familles qui sont défavorisées, où les parents seraient encore moins là parce qu'ils travaillent à l'usine ou sont peu présents. Eh bien, il y a à penser cette proximité pour que la société n'ait pas peur et puis qu'on puisse avoir quelque chose, une école qui puisse penser un avenir pour tous aussi, mais aussi dans la tranquillité. Et puis je pensais à ces modèles quand on dit, mais est-ce que c'est le seul modèle dans lequel on peut être? Je pensais, ça me faisait penser en vous écoutant à cette idée que les grands chefs des tribus indiennes des grands lacs en Amérique, je crois que c'était le Sénat qui leur avait demandé que leurs enfants aillent à l'école, et les grands chefs des tribus indiennes s'étaient mis ensemble pour dire, écrire une lettre et dire qu'ils remerciaient beaucoup, mais qu'ils avaient envoyé de leurs enfants dans les écoles américaines et qu'ils étaient revenus en ne sachant plus ni courir, ni chasser, ni faire ce qui était normal pour un homme. mais que en reconnaissance, ils étaient prêts à prendre quelques-uns des enfants des familles chics américaines pour en faire des hommes, s'ils voulaient bien les leur confier, bien sûr, ce qui s'est jamais passé. Mais c'est intéressant de voir aussi que ces conceptions de l'éducation, de qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on les envoie à l'école? Est-ce que c'est juste pour en faire des élèves qui vont devoir s'adapter à un certain programme pour apprendre des choses qui vont servir à quoi? Quand on parle aussi des enfants qui s'ennuient à l'école, hein, vous avez parlé de ça, des enfants qui sont aussi... Qui peuvent travailler rapidement, mais qui peuvent faire des choses intéressantes, et puis qui à l'école, au fond, on leur prend du temps, on les met dans des conditions qui font qu'au fond, ils pourraient faire d'autres choses plus intelligentes, se former plus vite, différemment. Quand on parle aussi des familles qui forment leurs enfants, ben, ça se passe différemment, mais il y a beaucoup de modèles qui montrent qu'on peut faire autrement, pour que l'enfant ne s'ennuie pas et qu'il y ait un vrai apprentissage pour qu'on développe vraiment ses compétences, eh bien, c'est ça, au fond, la question que je me pose. Comment cette crise peut nous permettre de répondre à l'ambition d'une école qui prépare des citoyens de demain, tous, indépendamment de leurs conditions de famille, mais qui leur donne un avenir qui puisse être espéré et puis qui sorte de cette espèce de carcan dans lequel on est, où on dit que tout le monde doit faire en même temps les mêmes choses, etc. Et c'est vrai qu'on forme les enseignants, les étudiants à ça. Et là, quand j'entendais Pascal tout à l'heure, elle disait aussi on doit revoir notre propre formation dans les institutions, parce qu'effectivement, on parcellise tout et qu'on n'a pas cette idée de pouvoir développer le potentiel aussi des étudiants de faire d'avoir une homothétie, de répondre de manière, d'enseigner de la façon dont on aimerait que les étudiants puissent ensuite devenir des enseignants qui enseignent de cette façon-là. Donc on a aussi toujours peur, il faut toujours les cadrer pour les évaluer, pour être sûr qu'ils n'ont pas triché. On a des peurs énormes sur plan, mais pas beaucoup de confiance sur l'apprenant. Or, c'est pas dit que le modèle qu'on propose, que ce soit dans les formations ou à l'école, soit tellement meilleur et qu'on apprenne tellement mieux dans l'école que quand on est dans un autre modèle. Donc, c'est vraiment un bon moment pour réfléchir à beaucoup d'éléments qui viennent pour sortir, pour faire éclater un peu les carcans, mais peut-être aussi pour retrouver des lectures comme celle de Illich ou de Fréret ou d'autres auteurs qui nous font réfléchir à une école qui peut faire éclater les murs, ou en tout cas nos décloisonner, comme on disait avec Catherine, la nécessité de décloisonner nos manières de penser, de décloisonner aussi entre l'école, la famille, les enseignants, de voir comment on peut réorienter le tout. Voilà, mais c'est un petit peu toutes les réactions que j'ai notées comme ça sur la richesse de vos interventions.
Merci Lise. François, la parole est à toi.
Ben, c'est difficile de prendre la parole après tout ça, mais c'est vrai, il y a une idée qui était dit que les technologies pourraient remplacer l'enseignant, c'était une vieille idée dans les années 60-70 avec l'apprentissage programmé où finalement on n'aurait plus besoin d'enseignants. Mais comme Lise l'a relevé, je crois qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. En tout cas, je pense que les enseignants de ce côté-là n'ont pas trop de soucis à se faire. En tout cas, en Suisse, c'est ce qu'on a vu, hein. Ils se plaignaient d'être considérés comme les gardiens ou les... ceux qui s'occupent des enfants pendant que les gens retournent au travail. Donc, on en a besoin d'eux. Maintenant, pour quel projet, la question reste ouverte. Et si les enseignants, de leur côté, n'ont pas de projet, de vrai projet à proposer, ben là, on peut avoir une certaine inquiétude parce que il y a peut-être du possible ou des choses à faire. Donc, je pense pour l'avenir de la profession, moi, je n'ai pas trop de doutes. Et même les technologies ou l'enseignement à distance, il y aurait des grandes résistances pour y parvenir complètement. Cela dit, moi j'ai vu parmi les étudiants que j'accompagne, notamment au secondaire, une grande inégalité. Et en fait, cette crise, comme c'était dit, ne redistribue pas non plus les chances ou les potentialités chez tout le monde. Dans la formation des enseignants, je pense aux enseignants qui ont des disciplines secondaires ou des disciplines où il est difficile aussi de proposer des modules à distance, les enseignants d'éducation physique ou autres. En fait, on a toute une partie qui, par le hasard de l'attribution des stages, se trouve finalement complètement empêchée de pouvoir travailler. Quand bien même, ils auraient le loisir. Non, enfin, ici, on a des étudiants qui font de l'EPS, et par exemple de la géographie, ou de l'EPS et du français, une autre discipline. Mais par le hasard de la formation, ils se retrouvent dans un stage d'EPS, alors qu'ils auraient pu, juste pendant cette crise, parce que l'EPS ne leur permet pas de développer des enseignements ou des modules à distance, ils auraient pu profiter de faire dans l'autre discipline qui est la leur, le français, les maths ou autre. Mais là, ils se sont trouvés complètement coincés. Alors, on a aussi une grande inégalité de futurs enseignants qui, eux, ont eu juste profité d'une aubaine inouïe de pouvoir développer la manière d'enregistrer des tutos, d'enregistrer des vidéos, de faire de l'enseignement à distance, et qui ont eu justement, ce qu'ils n'auraient pas eu dans une situation ordinaire, la possibilité de développer des compétences en technologie. Donc, par rapport aux collègues techniciens spécialistes des nouvelles technologies ou de l'enseignement à distance, moi, j'y vois une grande chance parce que ces enseignants-là, ils ont découvert ce que ça représente. Et ils ont déjà même des craintes par rapport à des modèles de classe inversée ou d'autres alternatives pédagogiques, parce qu'on a dans nos cantons des restrictions sur le temps des devoirs qui est imposé aux enseignants. Et ils se disent, si on fait des classes inversées, on a justement des modèles qui incitent les élèves à travailler avant d'entrer en classe. Ils ont vu des élèves motivés, ils ont vu des élèves qui prenaient plaisir à ça. Et en même temps, on risque de se retrouver dans des situations institutionnelles ou légales qui empêchent les enseignants de le vivre aussi. Donc, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Donc, d'un côté, on réduit les devoirs pour combattre certaines inégalités, puis d'un autre côté, on devrait pouvoir élargir ce temps pour trouver d'autres alternatives ou d'autres modes. Et la question du temps, elle est aussi problématique parce que certains avaient continué de faire l'école comme avant, et là, on dit stop, à distance, c'est 4 heures par jour maximum. Donc, je ne sais pas, Catherine, quand tu parlais du temps de ta fille, si c'est vraiment le plein du temps scolaire qui était entendu, enfin, l'équivalent d'un plein temps scolaire qui était donné aux élèves, aux enfants, ou bien effectivement, il y avait aussi un travail réduit de la part des enseignants. En tout cas, chez nous, certains, ils ont dû trouver un équilibre en disant, là, il faut un peu lever le pied. Ce qui compte, c'est de maintenir le lien avec l'école. Pas forcément apprendre de nouvelles choses, mais maintenir le lien. Et paradoxalement, on a eu aussi des enseignants qui disaient, ah, ben, lundi matin, ils retournent à l'école. Des enseignants qui disaient, moi, ce que je veux faire, c'est une évaluation pour vérifier les acquis de mes élèves, pour savoir où ils en sont et leur mettre une note. Donc, on vit aussi des positionnements complètement divers d'un enseignant à l'autre, d'une situation à l'autre, des craintes complètement folles. Je ne sais pas si effectivement il y aura du changement dans tout ça, ou bien si c'est juste une parenthèse qui va se refermer pour revenir avant et serrer encore davantage certains boulons. Moi, j'ai un peu de crainte. En tout cas, il y aura de la lutte entre des tenants d'une évolution et d'autres qui vont vouloir, je pense, revenir à ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent. Et ce qui m'inquiétait, c'est des étudiants qui disent « Oh, finalement, quand j'ai vu tout le travail que ça me demandait si je voulais faire un suivi correct de mes élèves, ben, j'ai préféré leur donner des correctifs. » Je ne sais pas. Moi, j'ai plein de questions, plein de balancements. Tous les côtés positifs qu'on voit peuvent se retourner et tous les côtés négatifs peuvent avoir leur pendant positif. Comment l'équilibre nouveau va se trouver, j'en sais rien. Et voilà. Donc, voir l'hétérogénéité comme quelque chose de positif, oui, mais en même temps, moi j'ai plus de crainte de voir des inégalités se creuser que l'hétérogénéité ou la diversité se valoriser, avec le risque de dire, ben, si tu es différent, c'est bien, reste comme tu es différent. Et peut-être que si c'est une égalité, ben, accepte ton inégalité et sois heureux avec. Et je pense que quand on lutte contre les inégalités, moi, je continue d'avoir de la peine avec cette idée-là ou cette valorisation positive qui va dans ce sens-là. Voilà quelques éléments de pensée par rapport à ce qui était entendu, écouté.